Chapitre 4. Le coffre de marin. Sans plus tarder, j'ai raconté tout ce que je savais à ma mère. J'aurais probablement dû le lui dire plus tôt, car nous nous sommes trouvés dans une situation difficile et même dangereuse. Une partie de l'argent de cet homme, s'il en avait, nous était due, mais il était peu probable que les compagnons de notre capitaine, surtout les deux que j'avais vus, Black Dog et l'aveugle, seraient disposés à renoncer à leur butin pour payer les dettes du mort. Obéir à l'ordre du capitaine de prendre un cheval pour aller prévenir le docteur m'aurait fait laisser ma mère seule et sans protection. Il ne fallait pas y penser. En même temps, il ne nous semblait possible à aucun des deux de rester longtemps dans la maison. Un bruit de charbon roulant dans le foyer ou même le tic-tac de l'horloge nous remplissait de frayeur. Quand nous prêtions l'oreille, les alentours nous semblaient pleins de bruits de pas qui approchaient. Entre le cadavre du capitaine allongé sur le plancher de la salle et l'idée que l'aveugle traînait quelque part, pas loin, prêt à revenir, il y avait des moments où, comme on dit, mes poils se hérissaient de terreur. Il fallait vite décider quelque chose. Il nous est finalement venu à l'idée de sortir ensemble et de chercher du secours au hameau voisin. Sitôt dit, sitôt fait. Tête nue comme nous l'étions, nous sommes sortis en vitesse dans le brouillard glacial du crépuscule qui tombait. Bien que situé hors de vue, les maisons n'étaient qu'à quelques centaines de pas de l'autre côté de la baie. Ce qui m'a donné du courage, c'était qu'elles se trouvaient du côté opposé à celui d'où l'aveugle était venu, et très probablement où il était parti, où il était reparti. Nous ne sommes restés que quelques minutes en chemin, même si nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour nous prendre par la main et tendre l'oreille. Il n'y avait aucun bruit anormal, juste le clapotis de la houle qui déferlait et le croassement des pensionnaires du bois voisin. C'était déjà l'heure d'allumer les chandelles quand nous sommes passés au hameau, et je n'oublierai jamais quel réconfort ça a été de voir des lueurs jaunes aux portes et aux fenêtres. Mais comme la suite l'a montré, c'était là toute l'aide sur laquelle nous n'avons pu compter. Nous avons pu compter. En effet, vous êtes en droit de penser que les hommes auraient dû avoir honte. Nous n'avons pas trouvé âme qui vive pour revenir avec nous à l'amiral Benbow. Plus nous avons parlé de nos ennuis, plus tous, hommes, femmes, enfants, se sont cramponnés à l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, s'il m'était inconnu, ne l'était pas de tout le monde. Et il a paru provoquer son pesant de terreur. En plus, des hommes qui étaient allés au champ de l'autre côté de l'amiral Benbow se sont rappelés qu'ils avaient vu passer sur la route plusieurs étrangers qu'ils avaient pris pour des bandits et qu'ils avaient évités. Enfin, quelqu'un avait aperçu un petit lougre au mouillage à l'endroit que nous appelions Kitty Hall. Pour toutes ces raisons, le moindre camarade du capitaine était de taille à les terroriser à mort. Tant et si bien que si nous en avons trouvé plusieurs disposés à prévenir le docteur Livesey, qui habitait dans une autre direction, pas un n'a voulu nous aider à défendre l'auberge. On dit que la couardise est contagieuse, mais d'un autre côté, la discussion renforce le courage. Quand tous ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire, ma mère leur a fait un discours. Elle n'allait pas, leur a-t-elle dit, perdre un argent qui appartenait à son enfant désormais privé de père. « Si aucun de vous n'a le courage, Jim et moi l'avons. Nous y retournons, comme nous sommes venus, et sans vous dire merci à vous autres, qui êtes des hommes grands et costauds avec des cœurs de poule. J'ouvrirai le coffre, même si je dois mourir. Merci pour votre sac, Madame Crawley, pour y apporter cet argent qui nous appartient en toute légalité. Bien sûr, j'ai dit que j'irai avec ma mère, et bien sûr, ils se sont tous désolés de notre inconscience. Mais même alors, pas un homme ne s'est décidé à nous accompagner. Tout ce qu'ils ont fait a été de me donner un pistolet chargé au cas où nous serions attaqués et de nous promettre des chevaux scellés d'avance au cas où nous serions poursuivis à notre retour. Entre-temps, un gars irait chez le docteur chercher un secours armé. Mon cœur battait sacrément quand nous sommes repartis tous les deux dans la nuit froide pour cette dangereuse aventure. La pleine lune était en train de se lever et diffusait sa lueur rougeâtre au-dessus du brouillard. Cela nous a incités à nous hâter, car il était évident qu'avant notre retour, il ferait aussi clair qu'en plein jour et que notre départ ne passerait pas inaperçu si on nous surveillait. Nous avons rasé les haies, sans faire aucun bruit, mais nous n'avons rien vu ni entendu qui aurait pu augmenter nos frayeurs, jusqu'à ce que la porte de l'amiral Benbow se referme derrière nous. J'ai immédiatement tiré le verrou, et nous sommes restés un moment dans le noir, hors d'haleine, seuls dans la maison, avec le cadavre du capitaine. Puis, ma mère a pris une bougie dans le bar, et en nous tenant par la main, nous sommes allés jusque dans la salle. Il gisait comme nous l'avions laissé, sur le dos, les yeux ouverts et les bras tendus. « Tire le rideau, Jim, » a murmuré ma mère. « Il pourrait arriver et nous voir de dehors. » Et comme je le faisais, elle a poursuivi. « Maintenant, il nous faut prendre la clé sur ça. Et qui va le toucher? Je voudrais bien le savoir. » Elle a eu une espèce de sanglot en prononçant ces derniers mots. Aussitôt, je me suis mise à genoux. Sur le sol, près de sa main, il y avait un petit rond de papier noirci d'un côté. Sans aucun doute, c'était la tache noire. Je l'ai prise. De l'autre côté, j'ai vu écrit, d'une petite écriture bien formée, ce bref message « Tu as jusqu'à 10 heures du soir ». Il lui avait laissé jusqu'à 10 heures, ai-je dit. Juste alors, la pendule s'est mise à sonner. Ce bruit soudain nous a causé un choc terrible. Mais en fait, c'était une bonne nouvelle. Il était seulement 6 heures. « À présent, Jim, » a dit ma mère, « cette clé !» J'ai fouillé ses poches l'une après l'autre. Quelques petites pièces de monnaie, un dé à coudre, un peu de fil, de grosses aiguilles, une chique de tabac dont le bout était coupé avec les dents, le grand couteau avec le manche courbe, une boussole de poche et une boîte à amadou. Voilà tout ce qu'elle contenait. J'ai commencé à désespérer. « Peut-être il l'a autour du cou !» a suggéré ma mère. Surmontant ma vive répugnance, j'ai déchiré le col de sa chemise. Et là, pendu à un morceau de ficelle imprégné de goudron que j'ai coupé avec son propre couteau, nous avons trouvé la clé. Ce succès nous a rendu l'espoir. Nous sommes montés sans attendre dans la petite chambre où il dormait depuis si longtemps et où son coffre était resté depuis le jour de son arrivée. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel autre coffre de marin, avec l'initiale B gravée au fer rouge sur le couvercle et des coins écornés et cassés avec, par un long usage et peu de soin. « Donne-moi la clé, » a dit ma mère. La serrure était dure, mais elle a tourné la clé et soulevé le couvercle en un clin d'œil. Une forte odeur de tabac et de goudron s'en est dégagée, mais on ne voyait rien d'autre sur le dessus qu'un costume de bonne étoffe, soigneusement brossé et plié. Ma mère a dit qu'il n'avait jamais été porté. En dessous commençait le désordre. Un cadran, une tabale en étain, plusieurs chiques de tabac, deux paires de très jolis pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole et quelques autres bibelots de faible valeur et de fabrication étrangère, un compas monté en argent, et 5 ou 6 coquillages des Caraïbes de forme curieuse. Je me suis demandé depuis pourquoi il les avait traînés avec lui alors qu'il menait cette vie vagabonde de criminel en cavale. Nous n'avions cependant rien trouvé qui ait de la valeur, sauf le lingot d'argent et les bijoux qui n'étaient pas ce que nous cherchions. En dessous, il y avait une vieille capote de marin blanchie par le sel. Ma mère l'a ôtée. Sont apparues les 2 dernières choses que contenait le coffre. Un paquet enveloppé de toile cirée, apparemment des papiers, et un sac en toile qui, au toucher, a rendu le son tintant de l'or. « Je montrerai à ces truands que je suis une femme honnête, » a dit ma mère. « Je prendrai notre dû, et pas un sou de plus. Tiens le sac de Madame Crowley ouvert. » Et elle a commencé à compter les pièces, en le faisant passer du sac de marin dans celui que je tenais. C'était une tâche longue et malaisée, car les pièces étaient de toutes les origines et de toutes les tailles. Des doublons, des louis, des guinées, des pièces de 8, et je ne sais quoi encore, toutes ensemble en vrac. Les guinées étaient probablement les moins nombreuses, et c'était pourtant les seules avec lesquelles ma mère savait comment faire ses calculs. Nous en étions à peu près à la moitié quand soudain j'ai posé ma main sur son bras. Dans le silence de la nuit d'hiver, je venais d'entendre un bruit qui me glaçait le sang. Le tip-tap du bâton de l'aveugle, sur le sol gelé. Il s'est approché, rapproché, tandis que nous restions assis à retenir notre souffle. Il a ensuite résonné contre la porte de l'auberge. Puis nous avons entendu la poignée bouger et le verrou cliqueter, signe que ce misérable tentait d'entrer. Un long silence a suivi, dedans comme dehors. Finalement, le tip-tap a retenti de nouveau, et pour notre immense joie et notre soulagement, il s'est éloigné lentement avant de s'éteindre tout à fait. « Mère, ai-je dit, prenons tout et filons !» J'étais sûre en effet que le verrou tiré avait semblé suspect et que bientôt l'essaim de frelons tout entier reviendrait bourdonner à nos oreilles. Cela dit, personne n'aurait pu comprendre à quel point j'étais heureux de l'avoir tiré, à moins d'avoir déjà rencontré cet aveugle abominable. Seulement ma mère, tout effrayée qu'elle était, se refusait à prendre un sou de plus que notre dû et s'obstinait à ne pas vouloir se contenter de moins. Il n'était pas encore 7 heures, disait-elle. Loin de là. Elle connaissait ses droits et voulait les faire respecter. Et elle discutait encore avec moi quand un petit coup de sifflet a retenti assez loin de là, en haut de la colline. C'en était assez, et plus qu'assez pour tous les deux. « Je prends ce que j'ai, » a-t-elle dit en se relevant d'un coup. « Et moi ça, pour faire le compte, » ai-je dit en empoignant le paquet en toile cirée. Un instant plus tard, descendions l'escalier dans le noir, après avoir laissé la bougie près du coffre, et l'instant d'après, nous avions ouvert la porte et nous battions en retraite. Il était plus que temps de partir. Le brouillard se dispersait rapidement. Déjà la lune brillait abondamment sur les hauteurs voisines. Il n'y avait plus qu'au fond du vallon et autour de l'auberge que persistait un léger voile de brume capable de cacher les premiers pas de notre fuite. Mais avant d'être à mi-chemin du hameau, au bas de la côte en fait, il nous faudrait affronter le clair de lune. Et pas seulement lui, car le bruit de pas de plusieurs personnes qui couraient nous est arrivé aux oreilles. Dans la direction d'où il venait, une petite lueur secouée à droite et à gauche et qui avançait rapidement nous a fait comprendre qu'un des nouveaux arrivants portait une lanterne. « Mon chéri, » a dit brusquement ma mère, « prends l'argent et sauve-toi, moi je vais m'évanouir. » À coup sûr, ai-je alors pensé, c'est la fin, et pour tous les deux. Ah, que j'ai maudit la lâcheté de nos voisins, et blâmé l'honnêteté et la l'âpreté au gain de ma malheureuse mère, en même temps que son inconscience et sa faiblesse soudaine. Par chance, nous étions arrivés au petit pont. Je l'ai aidée à atteindre, toute chancelante qu'elle était, le bord du fossé. Une fois là, elle a soupiré avant de s'écrouler sur mon dos. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force de le faire, et j'en ai peur, je l'ai fait plutôt brutalement, mais je suis parvenue à la traîner au fond du fossé et à la cacher en partie sous l'arche. Je n'ai pas pu la tirer plus loin, car le pont était trop bas pour me permettre de faire autre chose que de me faufiler dessous en rampant. Il nous fallait rester ainsi, ma mère presque entièrement visible et tous deux à portée de voix de l'auberge.